Nous continuons donc notre examen en parlant de quelques contemporains et aujourd'hui nous allons parler de deux Néerlandais.
Herman Dooyeweerd et Dirk Vollen Oven.
Voilà. Alors je vous mets aussi leur date. 1974-1977 et 1892-1978. Alors nous allons commencer par Herman Dooyeweerd. Herman Dooyeweerd n'était pas à l'origine philosophe. En fait, il était un juriste et il a été très longtemps professeur de droit
à la vue. La vue, pour ceux qui savent, c'est la Vrije Universiteit, c'est-à-dire à l'Université libre d'Amsterdam,
qui est à l'heure actuelle une des plus importantes universités des Pays-Bas. Il a laissé inachevé une encyclopédie du droit qui fait autorité aux Pays-Bas. Et je pense qu'on peut dire que, bien que devenu philosophe, il est quand même resté juriste.
Pensez qu'il a enseigné à la vue, donc à la faculté de droit de la vue, pendant de très nombreuses années.
De 1926
à 1965. Donc vous voyez, on peut dire que pendant 40 ans environ, exactement 39 ans, il a donc enseigné le droit.
Et cependant, il est devenu très vite philosophe. Et sa première œuvre philosophique, mais qui touchait au droit, c'est une œuvre qu'il a publiée en 1931, qui était intitulée « De crisis in de humanistische Staatslehre », c'est-à-dire « La crise de la doctrine de l'État humaniste ». Et la réflexion philosophique de Dooyeweerd a commencé là. Il s'est posé au fond la question, qu'est-ce que l'État? D'où vient l'autorité de l'État? Pourquoi y a-t-il un État? Quels sont les devoirs de l'État? Alors, toutes ces questions peuvent paraître des questions neutres, mais il s'est rendu compte que, du point de vue humaniste, c'est-à-dire si on en reste, si vous voulez, à une réflexion humaine autonome, on ne s'en sort pas. Et c'est vrai que, depuis plus d'un siècle, on ne sait plus quel est le fondement de l'État. On ne sait plus quel est le fondement de l'État. Vous avez d'ailleurs un professeur de droit français, professeur à la faculté de Bordeaux, qui est maintenant à la retraite, Jacques Ellul. Vous avez sans doute presque tous entendu parler de lui. Jacques Ellul a publié, après la Seconde Guerre mondiale, je ne me souviens plus dans quelle année, vers 47 ou 48, il a publié un petit livre intitulé « Le fondement théologique du droit ». Le fondement théologique du droit. Parce que si on ne reconnaît pas, je crois qu'il fait une erreur, Ellul, en parlant de fondement théologique du droit, on peut admettre, mais le mot théologique là est mal placé, il vaudrait mieux parler du fondement divin du droit. En effet, si le droit et si l'autorité de l'État ne sont pas établis sur Dieu, sur un fondement divin, on ne voit pas quel est le fondement du droit. Quel est le fondement du droit ? D'ailleurs, c'est une crise, cette crise de la doctrine de l'État, mais aussi c'est une crise de la doctrine du droit. Hein, d'ailleurs, l'État et le droit, ça se rassemble, puisque finalement, c'est l'État qui promulgue des lois, qui promulgue un droit. Donc, il y a un problème, là. Quels sont les fondements du droit ? Quels sont les fondements de l'État ? Pourquoi les hommes seraient-ils obligés de se soumettre à l'État ou de se soumettre au droit ? Et il y a une crise de la doctrine humaniste du droit, en ce sens, et une crise de la doctrine humaniste de l'État, en ce sens que les humanistes, c'est-à-dire ceux qui rejettent Dieu ou qui ne veulent pas entendre parler de Dieu, sont très embarrassés. Pour voir quel est le fondement du droit, ou pour voir quel est le fondement de l'État. Et alors donc, si vous voulez, c'est parce qu'il était juriste, parce que comme juriste, il était obligé de définir les fondements du droit, que d'Hoyeveerne a commencé à s'intéresser à la philosophie. Et comme il a une capacité de travail extraordinaire, une culture prodigieuse. C'est vraiment, il suffit de lire un peu d'Hoyeveerne pour se rendre compte de l'étendue et de la profondeur de sa culture. Il a pu très vite, en 1935-36, donc 4 ans ou 5 ans après avoir publié son ouvrage sur la crise de la doctrine humaniste de l'État, il a publié un ouvrage qui s'appelait en néerlandais « De Weisbrechte der Wetsidee », c'est-à-dire « La philosophie de l'idée de loi ».« La philosophie de l'idée de loi ». Trois volumes, 1935-1936, donc trois volumes sur la philosophie de l'idée de loi. Et, 20 ans après, environ, dans les années 1953-1958, il a publié en trois gros volumes, plus un quatrième, qui est une description analytique des trois premiers volumes, il a publié en anglais, parce que ça n'a pas été écrit en français, ça a été écrit en anglais, enfin il avait mis des notes, si vous voulez, c'est un autre volume. Quand il a publié La philosophie de l'idée de loi, ça c'était en hollandais, en néerlandais, mais lorsque il a repris pour le développer sa philosophie de l'idée de loi, c'est en anglais qu'il a publié sous le titre A New Critique of Theoretical Thought, c'est-à-dire une nouvelle critique de la pensée théorique. Pour vous montrer à peu près ce que ça représente, j'ai apporté ici le premier volume de cette New Critique. C'est un volume qui a près de 600 pages. Il y a donc, si vous voulez, trois volumes comme ça, plus un volume, à peu près la moitié, un peu plus de la moitié, peut-être de 250-300 pages, qui est un résumé analytique des trois premiers volumes. C'est-à-dire que tout est classé par ordre alphabétique, aussi bien les noms d'auteurs que les thèmes. Et alors, c'est très précieux, parce que dans ce résumé, c'est plus qu'un index, il y a un résumé un peu. Alors donc, vous voyez, c'est une œuvre monumentale qui a été écrite en manuscrit en hollandais, en développement de ces volumes parus 20 ans avant, mais que des amis américains de Dogeweerd ont mis en anglais. Si bien que ça n'a pas paru en hollandais. C'est paru directement en anglais, mais ça, c'est l'œuvre maîtresse de Dogeweerd. Hein? Donc, quand je parlerai d'une nouvelle critique, vous saurez qu'il s'agit de cet ensemble de quatre volumes. À partir de 1936, donc au moment où il a publié sa philosophie de l'idée de loi, Dogeweerd a créé une revue internationale intitulée Philosophia Reformata, qui est une revue trimestrielle, qui paraît donc quatre fois par an, que vous trouverez à la bibliothèque. Et Philosophia Reformata donc existe depuis 1936, c'est-à-dire depuis presque 50 ans, depuis en tout cas plus de 45 ans. Et il y a des articles en hollandais, évidemment, mais aussi en anglais, en français, en allemand. C'est une revue internationale à laquelle collaborent des gens d'un peu tout pays. Et si vous voulez avoir une introduction à Dogeweerd, une bonne introduction à la pensée de Dogeweerd, vous pouvez, si vous lisez l'anglais, vous procurer ce volume intitulé Contours of a Christian Philosophy, hein, c'est-à-dire, on peut dire esquisse, on pourrait traduire esquisse d'une philosophie chrétienne. C'est un ouvrage qui est paru en 1975, qui a à peu près 350 pages. Et qui est écrit par un Hollandais, Kalsbeck, et c'est traduit en français. Ça a donc paru d'abord en néerlandais, et ça a été traduit en français. Alors là, si vous voulez, c'est un résumé en 350 pages de l'ensemble de la New Critique, de la Nouvelle Critique. Maintenant, en français, vous avez un certain nombre d'articles de Dogeweerd qui ont été publiés par la Revue Réformée. D'ailleurs, dans la bibliographie que je vous ai remise et que vous avez peut-être conservée, j'espère, vous verrez les références, c'est-à-dire quelles sont les années et les numéros des articles de la Revue Réformée qui contiennent ces écrits de Dogeweerd. Je tiens à vous dire, parce que c'est très remarquable, que Dogeweerd, qui écrit normalement en néerlandais, peut très bien écrire en anglais, et que les articles en français qui ont été publiés dans la Revue Réformée ne sont pas des traductions, mais ils ont été écrits en français par Dogeweerd lui-même. Donc, vous voyez que c'est un homme qui peut écrire aussi bien en allemand, en anglais, en français ou en néerlandais. Il est assez difficile à lire, en ce sens que son point de vue philosophique étant tout à fait nouveau, enfin c'est la première fois depuis 20 siècles qu'on essaye de bâtir une philosophie vraiment chrétienne, Alors il a été obligé d'employer des néologismes. Il a dû créer, dans sa propre langue maternelle, dans néerlandais, des néologismes, des mots nouveaux. Et alors c'est souvent très difficile à faire passer un néologisme néerlandais en français, ou, si bien qu'il y a une petite difficulté de lecture. Mais, enfin, moi, je n'ai pas eu quand même trop de peine. Si vous voulez, oui, il faut faire un effort pendant les 100 premières pages de la nouvelle critique, mais une fois qu'on s'est mis dans le système, si je puis dire, de pensée de Dolly Verne, dans le vocabulaire même de Dolly Verne, ça va très bien. Alors, Dolly Verne a acquis, au fur et à mesure que les questions philosophiques se précisaient dans sa pensée, une culture proprement philosophique considérable. Vous voyez, qu'il s'agisse des philosophes de l'Antiquité grecque, qu'il s'agisse des pères, en particulier d'Augustin, qu'il choisisse des docteurs du Moyen-Âge, en particulier de Thomas d'Aquin, ou qu'il s'agisse des philosophes occidentaux de Descartes à nos jours, vraiment, je crois pouvoir dire, sans aucune exagération, que Dolly Verne a tout lu. Et c'est ce qui est très intéressant aussi dans la nouvelle critique. Vous allez par exemple à Descartes, ou vous allez à Heidegger, ou vous allez à n'importe quel philosophe de l'Antiquité jusqu'à nos jours, vous verrez que Dolly Verne a lu ces philosophes, et comme je vous le disais, tout en faisant une critique radicale de leurs motifs de base non chrétiens, il sait cependant assumer les moments ou les éléments de vérité que les diverses philosophies peuvent contenir. De plus, Dolly Verne a été sans cesse mise à l'épreuve, ou plutôt sa philosophie a été constamment mise à l'épreuve par une considération attentive des questions théoriques posées par les diverses sciences. Vous savez que, je vous ai tout à l'heure parlé de l'origine de la pensée philosophique de Dolly Verne. C'est comme juriste qu'il s'est posé des questions au sujet des fondements de la doctrine de l'État et du droit. Mais, finalement, tout juriste est obligé de se poser des questions philosophiques sur sa science particulière. Mais ce qui est vrai pour le droit est vrai pour toutes les sciences. Et, si vous voulez, ce qui est très étonnant, c'est de voir que Dolly Verne s'est posé des questions de philosophie de mathématiques, ou de philosophie de physique, ou de philosophie de la biologie, etc. Autrement dit, Dolly Verne a finalement eu plus d'impact dans les milieux scientifiques que dans les milieux proprement philosophiques. Et si vous voulez, c'est très intéressant. Je ne peux pas aujourd'hui entrer dans le vin, mais si vous voulez, il y a des astronomes, il y a des physiciens, il y a des biologistes, et même des mathématiciens qui se sont intéressés, non seulement aux Pays-Bas, mais peu à peu dans le monde entier, à la philosophie de Dolly Verne, parce que Dolly Verne cherche, si vous voulez, à creuser les questions fondamentales, primordiales, qui se posent à tout savant. Bien vite, Hermann Dolly Verne a été lié à Dirk Vollenhoven. Il faut dire que Dirk Vollenhoven est le beau-frère de Dolly Verne. Je vous avoue ne plus savoir si c'est lui qui a épousé une sœur de Vollenhoven, ou si c'est Vollenhoven qui a épousé une de ses sœurs. Je sais qu'ils sont beaux-frères. Bon, je pourrais peut-être rechercher la chose, en effet. Tout à coup, j'ai un trou, je l'ai su, maintenant je ne sais plus. Et alors, Vollenhoven, lui, n'avait pas du tout fait son droit, comme Dooyeweerd. Dooyeweerd, au fond, il n'a jamais... Il est devenu philosophe, mais il était d'abord juriste. Tandis que Vollenhoven, lui, s'est tout de suite intéressé, au moment même où il a fait des études de théologie, à la philosophie. Et en 1918, il avait donc 26 ans, il achèvera son doctorat avec une thèse sur la philosophie des mathématiques. C'est une thèse curieusement intitulée « La philosophie des mathématiques d'un point de vue théiste ». Ici, théiste, on pourrait dire aussi bien d'un point de vue chrétien, ou on pourrait dire peut-être d'un point de vue calviniste. Mais en tout cas, si vous voulez, Vollenhoven a donc fait son doctorat de philosophie sur la philosophie des mathématiques. Et ensuite, il étudiera les problèmes philosophiques en physique et en biologie. Alors vous comprenez bien pourquoi les deux beaux-frères ont été des compagnons de route et des compagnons d'études. Vous savez, leur pensée est quand même indépendante l'une de l'autre. Je veux dire, foncièrement, ils vont développer une philosophie chrétienne. Mais en fait, il y a des points sur lesquels ils ne sont pas d'accord, des points secondaires, des points mineurs, si l'on veut. Mais enfin, je veux dire, ils ne se copient pas l'un l'autre. Ils ont travaillé, vous voyez, ils sont nés, on peut dire, au même moment, ils sont morts au même moment, ils ont vécu, l'un a vécu quand même 86 ans, c'est Vollenhoven, tandis que Dooyeweerd a vécu 83 ans, enfin, ils ont vécu tous les deux très âgés, et ils ont, on peut dire qu'ils ont passé leur vie ensemble, d'autant plus que si Dooyeweerd était professeur à la faculté de droit de la vue, Vollenhoven, lui, était professeur de philosophie à la faculté des lettres de la vue. Alors, il y a deux ouvrages de Vollenhoven qu'il faut citer. Il a publié un premier ouvrage en 1932, Et Calvinisme in der Reformatie de Weisbericht, c'est-à-dire le calvinisme et la réformation de la philosophie. Et en 1950, il a publié, vous savez, ça arrive à un certain nombre d'auteurs, ça. Il a publié un premier volume d'une histoire de la philosophie. Il n'y a jamais eu de second volume. Mais il n'est pas le seul, vous avez des gens comme ça qui ont publié un premier volume sur quelque chose. Et puis, donc, je répète, les deux grands ouvrages de Vollenhoven, en 1932, Le calvinisme et la réformation de la philosophie, et en 1950, le premier volume d'une histoire de la philosophie. C'est en 1935 qu'ils ont établi l'Association pour une philosophie réformée, et donc on comprend pourquoi en 1936, il y a eu la création de Philosophia Reformata. Méfions-nous de considérations trop rapides. Quelques-uns ont dit Dooyeweerd, c'est le philosophe systématique, tandis que Vollenhoven, lui, est plutôt l'historien de la philosophie. Ça n'est pas exact, parce que on pourrait aussi bien démontrer qu'à bien des égards, Dooyeweerd est un historien de la philosophie et que Vollenhoven a une pensée philosophique systématique. Donc, disons plutôt, parce que ça c'est juste, qu'ils ont été les pionniers d'une philosophie vraiment chrétienne par leur rejet du dogme de la prétendue autonomie de la pensée philosophique. Au fond, tous les philosophes, sans exception, jusqu'à Dooyeweerd, ont admis comme allant de soi l'axiome ou le dogme de l'autonomie de la pensée philosophique. Et au fond, dans l'histoire de la pensée, si vous voulez, Dooyeweerd et son beau-frère Vollenhoven ont été les premiers à mettre en cause de façon critique cet axiome de la prétendue autonomie de la pensée philosophique et à montrer, comme je vous l'ai déjà dit à plusieurs reprises, que toute pensée philosophique avait des motifs de base religieux. Alors, il y a deux noms, quand même, que je voudrais citer à côté d'eux, parce que ce sont des penseurs importants. Il y a Klaus Schrieder, Schrieder, et puis j'ai oublié son prénom, mais vous pouvez écrire sans son prénom, Zeudema. À l'heure actuelle, des chaires de philosophie chrétienne ont été établies dans plusieurs universités des Pays-Bas, par exemple à Leiden, à Utrecht. Il y a des professeurs de philosophie réformée, ainsi qu'aux universités polytechniques de Delft et d'Eindhoven. Alors maintenant, après cette sorte d'introduction, nous allons examiner trois problèmes transcendantaux. Aujourd'hui, d'ailleurs, nous nous contenterons de poser le premier problème, de nous attaquer au premier problème. Alors, tout d'abord, une petite remarque. Un problème est transcendantal, enfin, c'est la définition qu'en donne Dogeweerd, un problème est transcendantal quand il se rapporte aux conditions a priori rendant possible l'exercice de la pensée théorique. Comme cette phrase est très importante, je vous la redis lentement. Un problème est transcendantal quand il se rapporte aux conditions a priori rendant possible l'exercice de la pensée théorique. Je relis une dernière fois. Un problème est transcendantal quand il se rapporte aux conditions a priori rendant possible l'exercice de la pensée théorique. Je vous dis aussi en passant, le mot transcendantal vient de deux mots latins, trans, qui signifie au-dessus, et ascendere, qui signifie monter. Alors, un problème, si vous voulez, un problème transcendantal, vous vous placez en quelque sorte au-dessus, vous vous élevez un peu au-dessus, et vous examinez donc les conditions a priori qui rendent possible l'exercice de la pensée théorique. Et la critique transcendantale développée par Dogeweerd et par Vollenhoven part des actes et des fonctions de la connaissance pour montrer que ces actes et fonctions de la connaissance dépendent nécessairement de présuppositions. Au fond, toute théorie de la connaissance est établie sur des présuppositions. Il n'y a pas d'exercice de la connaissance, il n'y a pas d'exercice de la pensée théorique sans présuppositions. Eh bien, disons que les trois problèmes transcendantaux que définit Dogeweerd se rapportent donc à ces conditions a priori rendant possible l'exercice de la pensée théorique. C'est pourquoi je vais prendre la peine, pendant d'ici
les vacances de Noël, aujourd'hui et donc les deux prochaines fois, je vais prendre la peine d'examiner successivement les trois problèmes transcendantaux définis par d'Hoyvaert. Et j'espère que vous prendrez soin, vous essaierez de suivre, j'essaierai d'être le plus clair possible, mais je voudrais que vraiment vous saisissiez l'importance de ces trois problèmes transcendantaux, parce que une fois que vous aurez saisi, que vous aurez bien saisi ces trois problèmes, je dirais que vous aurez une bonne clé pour comprendre ensuite le développement de la philosophie chrétienne réformée. Le premier problème transcendantal, que nous allons donc examiner aujourd'hui, c'est le suivant. Qu'est-ce que la pensée théorique, abstrait, on pourrait dire retire, non, mais abstrait, qu'est-ce que la pensée théorique abstrait de la réalité empirique qui nous est donnée dans l'expérience quotidienne? Et comment une telle abstraction est-elle possible? Ou bien je pose le problème un peu différemment, mais ça revient au même. Qu'est-ce qui caractérise, qu'est-ce qui spécifie la pensée théorique, scientifique, philosophique, par rapport à l'expérience quotidienne? Donc, vous voyez au fond, quel est le premier problème transcendantal que définit d'Hoyvaert. Comment l'abstraction qu'opère la pensée théorique est-elle possible? Nous sommes, nous les êtres humains, nous sommes dès notre naissance aux prises avec une expérience quotidienne. On peut prendre l'homme de n'importe quelle époque, de n'importe quel pays, dès sa naissance, le petit homme est confronté à lui-même et au monde qui l'entoure par l'expérience quotidienne. Vous savez que un petit bébé, au fond, dès le départ, est confronté à cette expérience quotidienne, dès le départ. Puis il va, par besoin de nourriture, tout de suite être en contact avec le sein de sa mère. Il va très vite, à mesure que son sens du toucher va se développer, il va se découvrir lui-même. C'est amusant d'ailleurs de voir un petit bébé qui tout à coup, un beau jour, découvre que c'est son pied. Et c'est pas fait du premier coup. D'abord, il voit bien un pied, mais il ne sait pas ce que c'est. Ensuite, il découvre que ce pied, ça fait partie de lui. Et petit à petit, si vous voulez, ben, il connaît sa mère, il se connaît lui-même, et puis il apprend à connaître le monde, et puis ainsi de suite. Au fond, l'expérience quotidienne ne cesse pas de notre naissance jusqu'à notre mort, tout au long de notre vie. Il y a cette réalité, donc, de notre expérience quotidienne qui est, pourrait-on dire, la donnée première, indispensable, et qui précède nécessairement toute connaissance, toute théoria sur la nature de la réalité. Et l'idée fausse qu'ont eu certains philosophes, c'est que cette expérience quotidienne serait en quelque sorte une théorie sous-entendue simpliste de la réalité. Pas du tout, c'est aucunement une théorie. L'expérience quotidienne, c'est l'expérience quotidienne. C'est pas une idée qu'on se fait, c'est une réalité qu'on vit. Il y a donc cette expérience
quotidienne de la réalité qui nous fait rencontrer globalement, concrètement, la réalité. Et dans l'expérience quotidienne, les choses, les personnes et nous-mêmes, c'est-à-dire aussi bien le monde qui nous entoure que nous-mêmes, nous nous rencontrons. Et bien sûr, nous allons peu à peu faire des distinctions dans ce que nous rencontrons. Par exemple, c'est très curieux, mais un petit bébé, puisque tout à l'heure je parlais de petit bébé, déjà, pas les premiers jours, ni les premières semaines, ni même les tout premiers mois, un petit bébé, lui, il voit bien papa, voilà. Mais c'est très curieux. Il appellera papa facilement, ou il pourra risquer d'appeler papa un peu tous les hommes. Comme s'il y avait les papas, tout ça. Alors papa, ça peut être aussi... Et il y a des bébés comme ça qui disent papa à tous les hommes, parce que pour eux, il n'y a pas encore de distinction bien nette. De même, il n'y a pas de distinction dans le monde qui entoure. Il faut... L'enfant va apprendre par son toucher... les distances. Il ne va pas apprendre les distances par son regard, parce que le regard n'indique pas les distances. Maintenant, notre regard nous indique des distances. Mais à l'origine, le regard n'indique pas les distances. C'est le toucher qui révèle les distances. Alors petit à petit, évidemment, le toucher se manifeste en même temps que la vue, et puis alors, on n'est plus obligé de toucher pour établir les distances. Mais au départ, l'enfant essaye d'attraper, il essaiera aussi bien d'attraper la lune, il voit un rond brillant, il essaye de la prendre, il n'a aucune idée que la lune est intouchable, intouchable dans les conditions normales. En 1969, on est bien allé toucher la lune. Si vous voulez, il faut cet apprentissage de l'expérience quotidienne. Et cette réalité, c'est celle à laquelle on revient toujours. Le plus grand savant n'échappera pas à cette expérience quotidienne de la réalité, et même s'il a toutes les théories possibles, imaginables, sur tel ou tel aspect de la réalité, il sera bien obligé de revenir toujours à cette expérience quotidienne de la réalité, parce que c'est ça notre vie. Notre existence, elle est faite de cette expérience quotidienne de la réalité, et j'appelle réalité donc... et nous-mêmes, et le monde, les personnes, les choses, tout ce qui nous entoure. Tandis que la pensée théorique va analyser ce qui va ensemble dans l'expérience quotidienne. Et peu à peu, la pensée théorique, en procédant à cette analyse, par voie d'abstraction, va distinguer ce que Dooyeweerd appelle les aspects modaux ou les cercles de loi de la réalité. Il a créé là deux mots sont faciles à comprendre, une fois qu'on a bien vu ce dont il s'agit. Ça vient de deux mots grecs, systasis et diastasis. Alors, Dooyeweerd parlera de la systasis, il transcrit simplement le mot grec, et la diastasis.
Dans les deux mots stasis, systasis et diastasis,
ça vient donc de mot grec. Le mot systasis, ça veut dire réunion, association, et diastasis, ça veut dire division. Alors, la pensée théorique passe de la systasis de l'expérience quotidienne à la diastasis nécessaire à son développement. La pensée théorique ne peut se développer qu'en passant de la systasis à la diastasis, c'est-à-dire en passant d'un ensemble global à une division, à une distinction entre les aspects modaux, les cercles de loi de la réalité. J'exprime les choses autrement pour que vous compreniez bien. La cohérence de l'expérience quotidienne fait place aux indispensables abstractions théoriques des diverses sciences. Dans notre expérience quotidienne, tout se tient, tout forme un ensemble. Eh bien, on ne peut pas raisonner, on ne peut pas philosopher, on ne peut pas opérer une recherche scientifique sans abstraire de la systasis, de l'ensemble cohérent de la réalité qui nous est présenté dans l'expérience quotidienne, hein, sans abstraire de tel aspect de la réalité qu'on va étudier. Donc, il y a la science, la réflexion philosophique et scientifique procède par voie d'abstraction parce que on va retirer à l'ensemble cohérent du cosmos, à l'ensemble cohérent que nous rencontrons dans l'expérience quotidienne, tel aspect que l'on va étudier. Au fond, on peut dire que dans la pensée théorique, il ne s'agit pas du quoi, c'est-à-dire des choses, des existants, des événements concrets, mais du comment, c'est-à-dire des différents modes, des différents aspects par lesquels nous saisissons le quoi. L'expérience quotidienne nous fait rencontrer le quoi, c'est-à-dire des choses, des existants, des événements concrets, hein? Tandis que la pensée philosophique et scientifique va rechercher le comment, c'est-à-dire va rechercher les différents modes, les différents aspects par lesquels nous pouvons approcher et saisir le quoi. L'expérience quotidienne est forcément, nécessairement, la donnée première dans notre vision de la réalité. C'est une donnée qui peut être enrichie, corrigée, précisée, mais c'est une donnée qui ne peut jamais être dépassée en ce sens que nous y revenons toujours, en ce sens que nous y sommes toujours. C'est ce qui explique pourquoi un astronome réputé, je vous ai déjà donné cet exemple, continuera à parler du lever et du coucher du soleil. Alors que l'astronome est bien placé, mieux placé que quiconque, pour savoir que les choses ne se présentent pas ici, dans la science astronomique. Mais dans l'expérience quotidienne, c'est vrai, dans l'expérience quotidienne, le soleil se lève. Et puis le soleil se couche. Et tous les peuples et les hommes dans toutes les conditions ont rencontré les choses de cette façon dans leur expérience quotidienne. Et alors, je le répète, ce n'est pas une théorie de la connaissance. Ça, c'est la grande erreur. C'est les gens qui confondent, et certains philosophes confondent l'expérience quotidienne comme si c'était une théorie de la connaissance. Pas du tout. L'expérience quotidienne, c'est la donnée première à laquelle on revient toujours. On peut dire que c'est la donnée première et dernière qui conditionne nos recherches de théoriques, nos recherches de philosophiques ou scientifiques. Mais alors que l'expérience quotidienne laisse intacte la cohérence structurelle intégrale de notre horizon temporel, alors que l'expérience quotidienne, donc, laisse toute sa place à la systasis, la réflexion théorique, qu'elle soit philosophique ou scientifique, dissocie analytiquement cet horizon d'expérience en ses aspects modaux divers ou en ses divers cercles de lois. Trois problèmes transcendantaux, et je vous rappelle qu'un problème transcendantal, dans le vocabulaire de d'Hoyeverde, désigne, se rapporte plutôt aux conditions rendant possible l'exercice de la pensée théorique. Alors nous avons parlé du premier problème transcendantal. Qu'est-ce qui spécificie, qu'est-ce qui caractérise la pensée théorique par rapport à l'expérience quotidienne? Aujourd'hui, nous allons aborder le deuxième problème transcendantal. Je préfère poser de plusieurs manières ce problème pour que vous saisissiez bien de quoi il s'agit. Le deuxième problème transcendantal : de quel point de vue pouvons-nous rassembler, unifier les divers aspects de la réalité? Ou encore, quel est le point de départ du philosophe dans sa réflexion sur l'ensemble des aspects de la réalité? Ou encore, quel est le point de référence centrale à partir duquel peut se développer la synthèse théorique? Au fond, si vous voulez, ce qui est au cœur du deuxième problème transcendantal, c'est s'il y a une cohérence de la réalité, si la réalité, malgré sa diversité d'aspects, est une, quel est le point de départ ou quel est le point de vue ou quel est le point de référence à partir duquel considérer l'ensemble de la réalité? Donc il s'agit, dans ce second problème transcendantal, du point de référence ou du point de départ ou du point de vue qui nous permet d'assumer dans notre pensée la cohérence de la diversité de la réalité. La réalité est diverse, la réalité comprend différents aspects. Comment unifier tout cela? Cela ne peut être unifié que si nous avons un point de vue unique ou un point de référence unique ou un point de départ unique. Donc je pense que maintenant vous voyez bien quel est le second problème transcendantal dans la perspective de d'Hoyeverde. Alors ceci nous amène à une réflexion préalable avant de répondre à la question posée, et cette réflexion préalable est la suivante. Nous avons en nous un aspect logique. On pourrait dire aussi un aspect de réflexion, un aspect de raisonnement. Au fond, le philosophe comme d'ailleurs tout savant, comme d'ailleurs tout étudiant, comme toute personne raisonnant, réfléchissant, est obligé de bien voir qu'il y a, c'est là l'exercice même de la pensée, un rapport entre notre pensée, notre raisonnement, qui est un aspect de la réalité, qui est l'aspect logique de la réalité, et puis l'ensemble des autres aspects, on pourrait dire les aspects non logiques. Et beaucoup de philosophes ont eu la tentation, ça se comprend, de considérer que la relation entre l'aspect logique et les aspects non logiques de la réalité, ou encore ce qui revient au même, la relation entre notre raisonnement, notre réflexion, et puis les autres aspects de l'expérience humaine, cette relation était elle-même le pont. Le pont. Or, ce n'est pas exact. Ce n'est pas exact. Précisément parce que l'aspect logique de la réalité, notre raisonnement, notre réflexion, fait partie elle-même de l'ensemble des aspects de l'existence. Autrement dit, on ne peut pas ériger un aspect de l'existence comme point de référence. Si vous voulez, on peut traduire ça schématiquement, il y a différents aspects de l'existence. Nous verrons par la suite combien on peut en considérer. Or, on ne peut pas ériger un de ces aspects, par exemple l'aspect logique, hein, pour être le point de référence de tous les autres aspects. D'abord parce que c'est arbitraire de prendre l'un des aspects pour considérer les autres, mais en plus, on ne peut considérer l'ensemble des aspects de la réalité qu'à partir d'un point de vue dominant ou transcendant les aspects de la réalité. Et c'est pourquoi Doyeweerde a désigné ce point de départ ou ce point de vue ou ce point de référence comme ce qu'il appelle le point d'Archimède. Le point d'Archimède. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler d'Archimède. Archimède était un géomètre grec, un géomètre d'ailleurs de grand talent. Il a vécu de 287 à 212 avant Jésus-Christ et il avait énoncé cette hypothèse, ce principe, donnez-moi un point d'appui hors du monde et je soulèverai le monde. Donnez-moi un point d'appui hors du monde et je soulèverai le monde. C'est pourquoi Doyeweerde, dans sa philosophie, donne le nom de point d'Archimède à ce point de référence. Alors, essayons de voir, avec cette image du point d'Archimède, ce que veut dire d'augure. Si l'on veut considérer de manière synthétique, unifier l'ensemble des aspects de la réalité, il faut que notre point de départ, notre point de référence, notre point de vue se trouve en dehors de la réalité. Pourquoi est-ce qu'Archimède disait ça? Parce que vous savez que en physique, n'est-ce pas, si vous avez, si vous faites un dessin de ce genre, hein, vous pouvez très bien soulever avec un poids relativement léger un poids beaucoup plus considérable. Donnez-moi un point d'appui hors du monde et je pourrai soulever le monde. Alors là, on ne peut avoir de vision de l'ensemble des aspects de la réalité que d'un point de vue transcendant la réalité, que d'un point de vue situé au-delà de la réalité. Donc, l'aspect logique de la réalité, qui est notre raisonnement, qui est notre réflexion, hein, c'est un aspect de l'ensemble des aspects de la réalité. Et vous ne pouvez pas, à partir d'un des aspects de la réalité, qu'est-ce qu'il soit, faire la synthèse ou avoir la vision d'ensemble de l'ensemble de la réalité. Et c'est pourquoi Doyever appelle immanentiste tous les systèmes de pensée qui cherche en vain à opérer la synthèse des aspects de la réalité à partir d'un des aspects de la réalité. Je vais reprendre les choses d'une autre manière. Par exemple, si vous voulez, il y a dans la réalité, un aspect qu'on peut appeler l'aspect numérique. Je vais prendre quelques exemples comme ça. Il y a un aspect de la réalité qu'on peut appeler l'aspect cinématique. Il y a un aspect de la réalité qu'on peut appeler l'aspect biotique. Il y a un aspect de la réalité qu'on peut appeler l'aspect logique. Il y a un aspect de la réalité qu'on peut appeler l'aspect esthétique. Il y a un aspect de la réalité qu'on peut appeler l'aspect juridique. Bon. Je prends des choses extrêmement différentes. Je vous les livre comme ça. Nous reviendrons sur cette question des différents aspects de la réalité plus tard dans ce cours. Bon. Or, par exemple, vous avez l'aspect numérique, n'est-ce pas? C'est l'aspect quantitatif de la réalité. Bon. Eh bien, vous avez des penseurs qui ont essayé de ramener tous les autres aspects de la réalité à partir de l'aspect numérique. Hein? Alors, on peut désigner cette forme de pensée comme un mathématisme. C'est-à-dire qu'on veut faire d'un aspect, l'aspect numérique, le point de vue à partir duquel on va envisager tous les autres aspects.
Mais vous pouvez avoir, pour ceux qui vont prendre l'aspect biotique, c'est-à-dire l'aspect des lois, du cercle de lois concernant la vie, eh bien, vous allez avoir un biologiste. Ou vous pouvez avoir un logiciste. Par exemple, on peut dire que Descartes fait de l'aspect logique l'aspect à partir duquel on considère toute la réalité. Vous savez que c'est Descartes qui a donné la fameuse formule « cogito ergo sum ». Je pense, donc je suis. Descartes fait de l'aspect logique, de l'aspect de pensée, l'aspect à partir duquel on va considérer tout l'ensemble de la réalité. De même, on peut prendre l'aspect esthétique. Vous avez des gens qui vont considérer toute la réalité du seul point de vue de l'aspect esthétique. D'autres, ce sera à partir de l'aspect juridique. Peu importe. Autrement dit, ce que Doyeverde dit, c'est qu'il est rigoureusement impossible de considérer l'ensemble des aspects de la réalité à partir d'un de ces aspects. Pas plus, si vous voulez, qu'on ne peut vraiment avoir une vision de la propriété de notre faculté à partir de là. Là, bien sûr, je peux regarder par cette fenêtre et puis je vais voir, à partir de là où je suis, un certain nombre d'éléments de la réalité de notre faculté, etc. Mais en réalité, celui qui voudrait avoir une vue d'ensemble de la propriété de notre faculté, ben, il faudrait qu'il soit placé en un lieu qui soit en dehors, par exemple au-dessus de notre faculté, et de là, il pourrait voir l'ensemble de la propriété de notre faculté. Hein? C'est pour ça que c'est très intéressant de se trouver, bien sûr, à condition que ce soit par beau temps, de se trouver sur un sommet, et du haut d'un sommet, par exemple, on peut avoir une perspective sur ce que domine ce sommet. Alors, Doyeverde donc pose qu'il est impossible à la pensée théorique d'avoir une vision d'ensemble de la réalité, la diversité d'aspects de la réalité, si l'on n'a pas un point d'Archimède, c'est-à-dire un point qui ne soit pas d'un point de vue immanentiste. C'est pas possible. Or, dit-il, la plupart des penseurs, la plupart des philosophes, la plupart des savants veulent considérer l'ensemble des différents aspects de la réalité à partir d'un de ces aspects. Bien sûr, ça peut être très intéressant de considérer du point de vue logique l'ensemble des autres aspects, ou du point de vue juridique l'ensemble des autres aspects, ou d'un point de vue esthétique l'ensemble des autres aspects. Mais à ce moment-là, n'est-ce pas, on n'a pas une vraie vision d'ensemble. Comme je disais tout à l'heure, ça peut être intéressant de considérer là où je suis, ce qu'on peut voir de la propriété de la faculté, ou si j'étais ailleurs, ce serait très intéressant. Ça, c'est vrai. On peut avoir une certaine vision, mais on n'aura pas vraiment une vision d'ensemble. On aura, à ce moment-là, une vision partielle se rapportant au seul aspect à partir duquel on considère les autres aspects. Ben, vous voyez bien que pour la pensée théorique, ça ne suffit pas. On ne peut pas considérer, ça peut être utile de considérer d'un aspect les autres aspects, mais on n'aura pas à partir de là une vraie synthèse. On n'aura pas une vraie vision d'ensemble. Ce sera malgré tout toujours une vision partielle. Pourquoi? Ça se comprend très bien. Un aspect, c'est quelque chose de partiel, et une vision à partir d'un aspect, c'est encore une vision partielle. Si l'on veut avoir une vision vraiment d'ensemble, si notre pensée théorique, et c'est son but, veut avoir une idée d'ensemble, une idée vraiment synthétique de la réalité, il faut trouver le point de référence, le point de départ, le point de vue, ou disons dans le vocabulaire de Doyeverde, le point d'Archimède, hors de la réalité qu'on considère, au-dessus de la réalité
qu'on considère. En fait, tous les ismes de la philosophie, matérialisme, biologisme, historicisme, etc., proviennent de l'interprétation de la totalité des aspects de la réalité à partir d'un seul aspect dont les autres, alors, deviendraient des modalités seulement. Or, nous n'avons de vision d'ensemble de la réalité que si nous recevons du créateur du cosmos et du créateur de la réalité la révélation la parole qui nous permet d'avoir une vue synthétique, réelle. D'Hoyeweerd dit, seule la parole de Dieu peut fournir le point de départ vrai permettant de voir, parce qu'il est au-dessus de la relation antithétique, les réalités d'aspects étudiés par les diverses sciences dans leur ordre et dans leur relation. Nous verrons d'ailleurs par la suite que, en se plaçant, en reconnaissant, si vous voulez, l'autorité de la parole de Dieu, alors, le philosophe découvre le vrai point d'Archimède de toute pensée. Dieu est le créateur, Dieu est le recteur de l'univers. S'il y a diversité des aspects de la création, c'est parce que lui a voulu cette diversité d'aspects. Donc, en se plaçant pour examiner toute chose du point de vue de la parole de Dieu, c'est-à-dire en recevant cette parole de Dieu sur l'ensemble du cosmos que Dieu a créé et de l'homme que Dieu a créé, alors on peut désidoliser, désabsolutiser, dédéifier ce que, normalement, va plus ou moins déifier le mathématisme, ou le biologisme, ou le logicisme, ou l'historicisme, ou le juridisme, etc. Autrement dit, nous nous retrouvons une fois de plus, vous allez trouver que je me répète, mais tant pis, on se trouve une fois de plus devant ce que l'apôtre saint Paul affirme dans le chapitre 1, de sa lettre aux Romains. Vous savez, c'est ce fameux passage, Romains 1, 18 et suivant, si vous voulez, on peut dire c'est l'ensemble des versets 18 à 32 de ce premier chapitre de lettre aux Romains, qui le dit très bien. Si l'homme ne reconnaît pas en Dieu le Créateur, le véritable absolu, comme en dehors de Dieu, il n'y a que la création, si l'on, le cœur de l'homme, refuse de voir en Dieu le véritable absolu, et comme Dieu a placé dans le cœur de l'homme le sens de l'absolu, l'homme va inévitablement absolutiser un aspect ou une partie de la création. Et comme on dit en latin, tertium non natur, c'est-à-dire il n'y a pas de troisième possibilité. Ou bien nous croyons au seul vrai absolu qui est Dieu, ou bien parce que nous avons en nous ce sens de l'absolu que Dieu nous a donné, faute de reconnaître le vrai absolu, nous allons absolutiser un relatif. Nous allons absolutiser
soit la création dans son ensemble, c'est le panthéisme, soit un aspect de la création, soit une partie de la création. Là, évidemment, le philosophe absolutise un aspect de la création, le mathématisme, le biologisme, le logicisme, etc., absolutise un aspect. Mais on peut absolutiser une partie de la création aussi. Alors là, ce sont évidemment des religions ou des façons de voir plus matérialistes. Lorsque, par exemple, on a les adorateurs du soleil, ou lorsqu'on a les adorateurs de l'eau, etc. Bon, mais en général, l'homme moderne n'absolutise pas une partie de la création. Le philosophe en particulier moderne n'absolutise pas une partie de la création, mais il absolutise un aspect de la création. Parce que cet aspect de la création devient pour lui le point de référence, le point de départ absolu. Or, le seul vrai point de départ absolu, c'est Dieu. Et pour nous, évidemment, c'est la parole de Dieu, parce que nous ne pouvons pas nous mettre à la place de Dieu, mais nous pouvons recevoir la parole de Dieu. Et à ce moment-là, sans nous mettre à la place de Dieu, nous nous mettons quand même en situation de voir l'ensemble, parce que c'est ça la grâce et le bienfait que Dieu nous fait, c'est que Dieu, ayant créé l'homme à son image, donne à l'homme une révélation de lui et du monde que Dieu juge suffisante pour nous. Nous n'aurons jamais, évidemment, une connaissance exhaustive, mais exhaustive, c'est-à-dire totale, entière, mais nous avons au moins, avec la parole de Dieu, tout ce que le Dieu créateur veut que nous sachions pour pouvoir nous placer en quelque sorte à partir d'un point de vue, à partir d'un point de départ, à partir d'un point de référence valable pour l'ensemble. Alors, voyez-vous, je m'exprime encore autrement, mais ça revient un peu au même. Ou bien le philosophe poursuit ses recherches à partir de celui qui est, selon sa révélation, le créateur et le rédempteur du cosmos, ou bien, inévitablement, il ne peut pas faire autrement, il poursuit ses recherches à partir d'un ou de plusieurs aspects du créé, en cherchant finalement ses principes d'exploration et d'explication dans le créé. Dans le créé. Et à partir de ce moment-là, on est dans ce que Dolieuvert appelle l'immanentisme. Hein, l'immanentisme, c'est de vouloir chercher le principe d'exploration et d'explication de la création à l'intérieur de la création. Or, vouloir expliquer la création à partir d'elle-même, c'est vouloir précisément prendre un point de vue et un point de référence en dedans même de ce que l'on veut considérer. Si vous voulez, on parle de point de référence. Si je veux me soulever moi-même, je ne peux pas me soulever moi-même à partir de moi-même. Je ne peux pas me prendre par le bras et me hisser, je ne peux pas me prendre par le peu de cheveux qui me reste pour me hisser. Je ne peux pas. Je veux pas essayer de me soulever à partir de moi-même. Je ne peux pas. Il faut que, pour me soulever, je peux y arriver. Mais il faut que je prenne un point de référence extérieur à moi-même. Par exemple, je peux prendre une poulie, je m'attache à une corde, et je pourrais, en tirant sur la corde, grâce à la poulie, je pourrais me soulever. D'ailleurs, c'est ce que font continuellement les ouvriers quand ils ravalent une façade. Ils peuvent très bien se hausser, même hausser un échafaudage avec eux, parce qu'il y a une poulie en dehors d'eux. On ne peut soulever le monde que par un point pris hors du monde. C'est pour ça qu'il n'y en a qu'un qui peut soulever le monde, c'est Dieu lui-même. Et je dirais, on ne peut se soulever soi-même que par un point hors de soi-même. Autrement dit, voyez, ce que Dolieuvert appelle immanentisme, c'est l'idée fausse selon laquelle on pourrait avoir un point d'exploration et d'explication du monde dans le monde lui-même. Or, les philosophies matérialistes ou les philosophies mathématistes ou logicistes ou tout ce qu'on veut, et Descartes lui-même, Descartes veut considérer le monde à partir de sa propre pensée. Mais c'est pas possible. C'est pas possible, parce que on va tout considérer à partir de quelque chose qui fait partie de ce qu'on a à expliquer. C'est comme si, c'est contraire, j'allais dire, au principe d'Archimède, on ne peut soulever le monde que par un point pris hors du monde, et on ne peut comprendre notre univers, vraiment, on ne peut avoir une réelle pensée philosophique et scientifique que si l'on accepte de recevoir Dieu comme Dieu, c'est-à-dire de recevoir la révélation de Dieu, de recevoir la parole de Dieu. Alors nous allons continuer encore sur notre lancée. Au cours de sa critique, et en particulier en posant son second problème transcendantal, d'Hoyevaerde montre que l'histoire de la philosophie est pleine des antinomies auxquelles aboutissent les différentes philosophies prétextant l'autonomie de la pensée philosophique. Pourquoi toute pensée immanentiste aboutit-elle à une antinomie? C'est parce que dès lors qu'on va vouloir expliquer la diversité d'aspects du cosmos à partir d'un des aspects du cosmos, ou même, on pourrait dire à partir de plusieurs, et même à la limite à partir de l'ensemble des aspects du cosmos, on va inévitablement buter, parce que c'est contraire à la vérité profonde des choses, on va buter contre une antinomie. Une antinomie, c'est-à-dire, on va se trouver devant une contradiction fondamentale, on va se trouver devant une opposition fondamentale, et on ne peut pas s'en sortir. L'antinomie, c'est une contradiction telle, une opposition telle, qu'on ne peut que buter contre et qu'on ne peut pas s'en sortir. C'est comme on est dans une impasse. On est dans une impasse. Or, d'Hoyevaerde et Vollenhoven, son beau-frère, en considérant l'histoire de la philosophie, il montre que tous les systèmes philosophiques aboutissent à ces impasses. Tous les systèmes de philosophie immanentiste aboutissent à ces impasses. Et on peut prendre n'importe laquelle de ces formes d'absolutisation d'un aspect de la réalité, forcément, ça va buter à un moment donné sur une antinomie. L'ironie de Dieu, c'est que toute absolutisation d'un aspect cosmique est bien vite relativisée par l'absolutisation d'un autre aspect. Si vous voulez, on pourrait voir surtout le développement de la chose telle qu'elle s'est opérée depuis Descartes. Et la chose s'est accélérée encore à partir de Kant. Voyez-vous, vous vous souvenez, nous avons vu que la plupart des philosophes, particulièrement depuis Descartes, ont absolutisé un aspect de la réalité. Et nous avons vu que c'était des aspects différents. Nous avons vu que certains philosophes, ils absolutisaient l'aspect mathématique. Et vous avez eu des philosophes, en réalité, qui tendait à voir le monde à partir de l'absolutisation de l'aspect numérique.
ou à partir de l'absolutisation de l'aspect logique, ça c'est le cas de Descartes, ou à partir de l'absolutisation de l'aspect moral, ça c'est Kant. Kant, au fond, lui, je ne l'ai pas mis là, j'aurais pu le mettre là, l'ajouter, l'aspect moral de la réalité. Eh bien, avec Kant, on a l'absolutisation de l'aspect moral. On pourrait presque décrire la philosophie de Kant comme un moralisme. Pas en employant le mot moralisme au sens courant, mais en employant le mot moralisme au sens de divinisation, d'absolutisation de l'aspect moral. Hein, c'est dans ce sens que je prends le mot moralisme, non pas dans le sens ordinaire, quand on dit c'est du moralisme ou tout ça. Alors, on a cela. Or, comme en divinisant, en absolutisant un des aspects, on bute contre une antinomie, aussitôt on a un philosophe qui va relativiser cette mauvaise absolutisation en proposant une absolutisation différente. Et au fond, on assiste à une succession de choses comme ça. À l'heure actuelle, par exemple, le monde est menacé, c'est une chose qui est très grave, par l'absolutisation de l'aspect biotique, de l'aspect de la vie. Et on a le biologisme. Et vous savez que nous avons un exemple français qui est intéressant, dont je vous ai déjà parlé, c'est l'exemple du biologiste Jacques Monod, l'auteur du fameux livre « Le hasard et la nécessité ». Mais on s'aperçoit qu'aujourd'hui, les biologistes, pas tous les biologistes heureusement, mais les biologistes qui tombent dans le biologisme, veulent finalement tellement absolutiser, diviniser, déifier cet aspect que nous sommes très menacés. Nous sommes très très menacés. Vous savez que en ce moment, certains biologistes se lancent dans des expérimentations qui sont extrêmement graves à tout point de vue. Vous savez par exemple que on a posé des questions récemment en France, mais ça se produit aussi dans d'autres pays. Vous avez, grâce aux lois laxistes sur l'avortement, on aboutit à ceci, c'est que on avorte une femme, mais on va se débrouiller pour conserver le fœtus. Et on va faire des expériences sur des fœtus vivants. Si vous voulez, du fait qu'il y a des lois contre l'avortement, les biologistes peuvent avoir à leur disposition une quantité de fœtus. Et on va faire des expériences et poursuivre des expériences sur ces fœtus. J'attire votre attention sur le fait que certains de ces fœtus peuvent être des fœtus qu'on va entretenir par toutes sortes de moyens en vie. Bon. Et on aboutit en fait, on ne peut pas savoir où est la limite qu'on va pouvoir établir entre ce qui est encore un fœtus, ou peut être considéré encore comme un fœtus, et ce qui peut être considéré comme un fœtus ayant abouti à la situation d'un enfant. C'est très délicat. Vous savez qu'aujourd'hui, on arrive, et heureusement, ça a été un bienfait, on arrive à sauver de la mort des bébés prématurés. On a sauvé d'abord des bébés prématurés qui avaient, au bout de 8 mois, qui naissaient après 8 mois de grossesse, ensuite après 7 mois de grossesse, ensuite après 6 mois de grossesse, et même dans certains cas, maintenant, on arrive à sauver des bébés au bout de 5 mois de grossesse. Des bébés qui naissent prématurément à la suite d'un accident ou à la suite
de quelque chose qui s'est produit organiquement dans la mer. Bon, et alors on arrive, évidemment, il faut élever ces prématurés dans des couveuses, il faut les... Oh, mais on arrive. Bon, mais alors, imaginez qu'on utilise des fœtus. Vous voyez à peu près ce que ça peut donner. Parce que ces fœtus qu'on entretient, eh ben, si on réussit artificiellement à les maintenir en vie, bon, on n'arrivera peut-être pas. Actuellement, on n'arrive peut-être pas. Mais on peut arriver à ce que finalement, ces fœtus arrivent à être déjà à l'âge normal. Si, je veux dire, ils ne sont plus des prématurés, ils arrivent à... Et alors, à partir de là, c'est terrible de penser que, au nom du biologisme, c'est-à-dire en laissant le point de vue purement biotique dominé, on peut arriver à des choses atroces. Et ça me frappe d'autant plus, vous, votre génération, vous n'êtes pas dans le même cas, bien sûr, mais moi, ça me frappe d'autant plus, c'est que j'ai vécu au temps de Hitler, et je me souviens des expériences biologiques effroyables qui se faisaient en particulier à partir des camps de concentration. On avait un matériel humain, si j'ose dire, tout trouvé. Et à cette époque, mais on se récriait partout. On trouvait abominable qu'on puisse se servir, j'emploie l'expression exprès, d'un matériel humain pour faire sur ce matériel humain n'importe quelle expérience. Or, aujourd'hui, on voit dans beaucoup de nations occidentales qui se récriaient devant les expériences biologiques que faisaient des médecins ou des savants nazis, aujourd'hui, on le fait. C'est-à-dire qu'on pourrait dire à certains égards, c'est l'esprit nazi qui a gagné. C'est l'esprit de Hitler, l'esprit d'inhumanité de Hitler qui a gagné. Et même certains biologistes sont tellement, dépouillé de toute autre considération que de la seule considération de l'aspect biotique de l'existence, que finalement ils pensent que tout leur est permis. Que tout leur est permis. Et alors, on peut voir cela, ça peut se produire, pour le moment ça se produit sur des bébés, mais on commence à le produire aussi bien sur des vieillards. On maintient par des moyens artificiels différents en vie des gens pendant des mois, pendant des années, de manière à faire des expériences, comme on fait des expériences sur des fœtus, et on fait des expériences aussi en maintenant artificiellement en vie des vieillards. Et alors, on arrive aussi à des problèmes épouvantables. Bon, alors je vous dis cela simplement pour vous montrer, dès que des aspects de la vie est déifié, absolutisé et tout ça, eh bien, on peut arriver exactement à n'importe quoi. Et alors, c'est pourquoi il est très important pour nous chrétiens d'affirmer cette vérité, à savoir que il n'appartient pas aux hommes d'exercer tout pouvoir à partir d'un point de vue qui est finalement le point de vue d'un seul aspect de la réalité, alors que tout le cosmos et l'homme doit se ranger aux lois de Dieu, doit se ranger à la loi de Dieu, doit se ranger à la parole de Dieu, à la révélation de Dieu. Et à partir du moment où Dieu est rejeté, où l'autorité et la vérité de la parole de Dieu sont bafouées et autres, alors à ce moment-là, d'un point de vue immanentiste, on peut arriver à des choses épouvantables. Alors, nous sommes en plein dans une actualité en affirmant ces choses. Bon, l'œuvre de Dolgoverde date pour l'essentiel d'avant la Seconde Guerre mondiale, encore que A New Critic, vous le savez, n'a paru que dans les années 50. Mais c'est très important de voir que l'homme n'a pas à s'attribuer un espèce de pouvoir divin et de multiplier ce pouvoir divin qu'il s'attribue par l'absolutisation d'un des aspects. Mais l'homme, c'est une religion comme une autre.
C'est une religion abominable, mais c'est une religion comme une autre. Les paganismes sont des religions, les idéologies sont des religions. Il faut bien voir que si nous prenons le mot religion au sens où je l'ai défini, c'est-à-dire à partir de l'actance, c'est-à-dire voir dans le mot religion un mot qui vient du latin religare, c'est ce qui relie. Alors relie au fond, là nous trouvons le mot religion. Au fond, le point de vue immanentiste, il veut tout relier et voir donc un ensemble du tout et une synthèse du tout à partir d'un des aspects. Voilà, donc c'est une religion immanentiste. Toutes les fausses religions sont des religions immanentistes. C'est une religion, puisque tout va être relié à un des aspects considérés comme absolutisé. Hein, voilà. Tandis que nous devons bien voir que les choses ne peuvent être vraiment reliées qu'à partir d'un point de vue qui est justement au-dessus de l'immanence.